Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Ça vient juste de tomber, c'est Fred McCall qui m'a donné ça, selon l'Association professionnelle de Congrès du Québec et Le Devoir. Il y a un décret qui vient d'être diffusé. Québec permettrait désormais de tenir des réunions de maximum de 250 personnes dans les hôtels et salles de conférence de la province, y compris en zone rouge, ce qui est assez extraordinaire. Et je cite, il est ainsi possible de tenir une réunion sur un site comme ceux des membres de l'Association des professionnels de congrès du Québec, soit dans un hôtel, un centre de congrès, un lieu inusité comme le zoo de Granby, un musée ou une salle communautaire. Alors, il y a des décisions qui se prennent. On va en parler, c'est sûr, avec la ministre du Tourisme tantôt à midi de ce décret. Entre-temps, on a Denis Goulet, qui est spécialiste en histoire de la médecine et professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Monsieur Goulet, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
J'ai commencé votre livre qui est extraordinaire, La brève histoire des épidémies au Québec, du choléra à la COVID-19 aux éditions Septentrion. Écoutez, je l'ai lu ce matin, j'ai commencé à le lire ce matin, là, c'est absolument fascinant, puis j'espère qu'on va pouvoir s'en reparler une fois que je l'aurai lu. Ce livre-là, ça fait longtemps qu'il a été publié?
Non, ça fait à peine 2 mois. En fait, je l'ai écrit en plein milieu de la pandémie. L'idée m'est venue, si on veut, de reprendre des recherches que j'avais déjà faites. Et je trouvais que ça tombait pas juste à point, justement.
Ah non, c'est en tout cas, pour ce que j'en ai lu, c'est absolument fascinant. Comment, puis on va en parler un petit peu. Je sais qu'on vous a appelé pour faire le tour des pandémies. Mais d'abord, dans ce livre, vous dites « La pandémie actuelle de la COVID-19 ne peut laisser indifférent un chercheur en histoire qui a aussi enseigné l'épidémiologie et la géographie de la santé. Et malgré ces temps difficiles, je me suis dit que l'occasion était propice pour troquer mon chapeau d'historien de la santé et de la médecine pour celui d'historien des maladies. » Dit. Alors vous, en banalisant pas les morts et la souffrance, là, mais vous voyez cette pandémie, puis vous avez une source d'information là, qui jaillit de ça.
Ah oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de points de comparaison qu'on peut établir sur le plan historique. Un exemple assez fascinant, c'est évidemment la grippe espagnole, mais si on regarde la dissémination de la pandémie de la grippe espagnole, mais ça s'est fait en 2 vagues, un peu comme aujourd'hui. Hein, la première vague apparaît en mars 1918 aux États-Unis, puis ensuite il y a un pic au mois de novembre et décembre, c'est là où la pandémie est la plus meurtrière. Mmh. Et ensuite, il y a une deuxième vague qui survient en 1919, mais qui est moins meurtrière que la première. Mais ce qui est intéressant, je veux souligner ça, c'est que la première vague touche surtout les jeunes entre 18 et 35 ans, et la deuxième vague touche plutôt les personnes âgées.
Ah ben.
Puis aujourd'hui, c'est complètement l'inverse.
Ben oui. Revenons en arrière, M. Goulet. Là. Commençons cette liste de pandémies qui a touché l'humanité. Puis vous commencez avec la peste de 1347 à 1349. Qu'est-ce qu'il faut connaître de la peste? Tu sais, je pense pour comprendre ce qu'on vit présentement, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé.
Oui, absolument. Mais la peste, en fait, ça a marqué l'imaginaire. On dit encore l'expression « fuir comme la peste », hein, mmh. Évidemment. Mais ça a été une terrible épidémie dans une période où l'Europe était une situation de famine, entre autres, où les personnes, en fait, la population européenne était plutôt en état de léthargie alimentaire, entre guillemets. Et c'est un terreau propice au développement de cette grande pandémie qui a décimé le quart de l'Europe. C'est quand même énorme, entre 1348 et 1349. Ça va toucher toute l'Europe. Et la cause de la peste, ben, c'était la proximité entre le Rhin Noir et les populations. Donc, c'est lié à une situation de famine, une situation de misère, qui qui finalement a choqué les esprits au point tel qu'on va peu à peu défendre l'idée d'une mesure de protection. L'homme peut intervenir finalement suite à ce type de grand événement catastrophique.
Mais le lien que vous faites entre la misère, là, la salubrité et puis dans l'état dans lequel les gens vivaient et la proximité avec des animaux comme des rats, quelles ont été les conséquences politiques de la peste? Est-ce qu'on a pris des mesures de salubrité?
C'est-à-dire que c'est venu très lentement. C'est venu très lentement parce que à partir du 14e, 15e, 16e siècle, il va y avoir ce qu'on appelle un processus de laïcisation de la pensée. Parce qu'il faut comprendre qu'au 14e siècle, c'était une cause divine. Hein. C'était un fléau lancé par Dieu, etc. Mais peu à peu, on va comprendre que l'homme peut lutter contre ce type de grande pandémie. En mettant, par exemple, des cordons sanitaires. Il va y avoir d'autres épidémies de peste, je pense à la peste de Marseille, mais qui va être circonscrite au sud de la France, parce que on va fermer, si on veut, des lieux géographiques, notamment le sud, tout autour de Marseille, et on va empêcher les déplacements de population. Etc. Donc, on va inventer en quelque sorte les paramètres de la santé publique tels qu'on les connaît aujourd'hui. Contamination, c'est-à-dire pour éviter la contamination, l'isolement des personnes atteintes, etc. etc.
Ouais, le début du confinement, finalement, M. Goulet.
Oui, c'est bien
c'est ça.
Oui.
Hein? Alors, un saut au 19e siècle, là, le choléra.
Oui, le choléra, c'est une maladie qui va survenir tout au long de la première moitié du 19e siècle. Et la cause du choléra, c'est le développement du commerce international. Et le choléra les souches, souvent le Moyen-Orient. Ensuite, ça débarque dans le port de Marseille. Ensuite, du port de Marseille, ça se répand jusqu'en Angleterre et de l'Angleterre jusqu'au Québec. Le Québec va être touché par le choléra, notamment dans une période où il y a une immigration qui se fait et aussi des échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne. Donc, le choléra apparaît en 1832, en 1834 et ensuite en 1849. Donc, il y a plusieurs vagues, mais ce sont des vagues successives, si on veut. Et ce ne sont pas des vagues rapprochées, comme dans le cas de la grippe espagnole.
Ouais, mais clairement, là, le mouvement des populations entraîne des contaminations.
Oui, puis d'autant que la terrible épidémie de 1847 est directement liée à l'immigration d'Irlandais qui fuient la famine en Irlande et qui débarquent dans le port de Québec. Et on a noté pour le typhus, par exemple, en 1947, eh bien, c'est près de 17 000 décès. C'est 17% des immigrants qui ont transité par Québec vont décéder de cette terrible épidémie qui va marquer l'imaginaire aussi dans l'histoire du Québec.
Je reviens à votre livre là, que j'ai pas fini de lire. Là. Puis je vous le dis, M. Goulet, on va se reparler parce que je trouve ça fascinant. Il y a un extrait, j'ai sorti là, au 19e siècle à Paris, en quelques mois, vous écrivez « Le bilan s'élève à plus de 7000 morts. Ceux qui en ont les moyens quittent la ville pour la campagne, comme lors des épidémies de peste. » Et on voit ça ici, là, présentement, en temps de pandémie. Les gens achètent des chalets, des maisons en région puis à la campagne. C'est la même réaction.
Ah oui, c'est assez fascinant de voir les constantes dans les réactions. Par exemple, les théories du complot, la fuite, justement, ça c'est un élément que vous venez de mentionner, c'est l'idée, si on veut, de se réfugier dans un lieu considéré comme plus sain, où, évidemment, la densité de la population est moindre, donc les risques de contagion sont moins élevés. Et ça, c'est un réflexe qu'on retrouve même à l'époque du 14e siècle, hein, durant les grandes épidémies de peste, les riches notables ont fui vers la campagne.
Ah oui, donc c'est un réflexe des gens qui vivent en ville. M. Goulet, la variole aussi, ça a été long avant qu'on puisse éradiquer la variole.
Ça a été très long. En fait, on voit apparaître les premiers vaccins au 19e siècle. Heureusement, il y a une grande épidémie de variole, j'en parle dans mon livre, à Montréal en 1885. Ouais. On décrète la vaccination obligatoire. Les gens ne connaissent pas ce procédé préventif. Bon, il y a des émeutes, mais il en reste pas moins que...
Vous venez de dire ça, là, je l'ai lu, ce bout-là. Il y a des émeutes au Québec là pour ne pas être vacciné.
Oui, il y a des émeutes à Montréal, mais en fait, c'est pas seulement lié à la vaccination obligatoire, c'est lié au fait qu'on n'a pas préparé la population, on ne l'a pas informée. On le fait de façon quasi violente, si on veut,
ouais.
et on intervient dans les foyers. En fait, on intervient dans l'espace privé, et les gens n'ont pas l'habitude de se voir imposer un moyen prophylactique. À cette époque, tout était nouveau. C'est vrai qu'il y a des émeutes, j'en parle dans l'ouvrage, il y a des incendies qui sont allumés, donc c'est un événement quand même majeur, mais il n'y a pas juste au Québec, il y a eu des émeutes aussi à Rio de Janeiro, au Brésil, suite à la promulgation des vaccins antivirioliques, mais par la suite, la population va plutôt accepter, on va comprendre que c'est un moyen de prévention formidable, et on assiste à une éradication, c'est assez formidable, l'éradication de la variole grâce à l'OMS à partir de 1980. Il n'y a plus de cas de variole sur la planète depuis 1980.
C'est un saut dans le temps, là, Monsieur Goulet, j'ai lu aussi que arrive le vaccin, on éradique la variole, mais arrive le VIH, là, le virus du sida.
Oui, ça a été vraiment une très très grande surprise, parce qu'on croyait qu'on pouvait, avec le développement de la technologie, de la virologie, qu'on pouvait, si on veut, affronter un certain nombre de maladies infectieuses, qu'on pouvait les contrôler assez aisément. Or, le sida va créer un émoi dans la mesure où on a affaire à un virus nouveau qu'on connaît mal et qui a été transmis, si on veut, du singe à l'homme, c'est le franchissement de la barrière espèces, comme ça arrive souvent dans les épidémies.
Ouais.
Et ça va toucher malheureusement un groupe de la population plutôt marginaux, hein, les prostituées, les toxicomanes, les homosexuels, et qui vont faire l'objet, si on veut, de discrimination. Mais peu à peu, on va comprendre que on peut lutter contre ce fléau qui va faire quand même près de 20-25 millions de morts.
Ouais, il n'y a toujours pas de vaccin contre le sida, faut le dire.
Non, il n'y a pas de vaccin, parce que c'est un rétrovirus. C'est très, très complexe de trouver un vaccin par rapport à ce type de virus. Mais il y a des traitements maintenant qui permettent, si on veut, de
vivre avec le virus. Oui. Vous avez, Monsieur Goulet, vous avez mentionné la grippe espagnole tantôt, qui a duré 2 ans, qui a fait des ravages. La polio aussi, là, ça a été une épidémie.
Oui, mais la polio, ça n'a pas été une épidémie très importante en termes de cas, mais ça a été très important au niveau des personnes affectées. C'était surtout les enfants qui étaient touchés par la maladie. En 1946, au Québec, il y a quand même 1600 enfants qui sont touchés par la maladie. C'est pas rien. Plus d'une centaine vont en mourir, et près de 300 de ces enfants vont subir de graves paralysies. Et à partir de là, on va mettre en branle, si on veut, les moyens technologiques, les moyens scientifiques pour créer un vaccin, ce qui va être fait, heureusement, à partir de 55 et au début des années 60. Et aujourd'hui, il y a un vaccin contre la polio, et la maladie va disparaître du Québec.
Ouais. La grippe, il y a une série de grippes asiatiques, là. Puis aujourd'hui, je sais même pas si on aurait le droit de dire ça, parce qu'on serait taxé de raciste, mais c'est des grippes qui proviennent de l'Asie.
Oui, mais en fait, la plupart des grippes proviennent d'Asie. Hein. C'est un phénomène historique, ça. Et c'est vrai qu'en 57-58, c'est assez intéressant, c'est un peu historique. La grippe asiatique de 57-58 a quand même fait près de 2 millions de morts.
Hein. Ah, ouais.
Ah oui, c'est une pandémie qui a été oubliée pour toutes sortes de raisons qui seraient complexes à présenter ici. Mais c'est une grippe qui va s'étendre partout dans le monde. La France est durement touchée. 9 millions de malades. On estime à peu près 90 000 morts, vous imaginez. Soit à peu près 20 fois plus qu'une grippe saisonnière. Ensuite, la grippe va atteindre l'Amérique, puis va provoquer plus de 70 000 décès aux États-Unis. C'est pas rien. Le Québec est assez épargné. En fait, la pandémie se répand entre septembre et octobre, mais elle affecte surtout les enfants. Environ, on estime que près de 7 000 des 28 000 écoliers à l'époque sont atteints de la maladie, avec un taux de mortalité quand même relativement bas. Et chez les adultes, les adultes ont une certaine immunité, puisqu'ils avaient déjà eu des grippes saisonnières qui les protégeaient en partie. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième grippe, la grippe de Hong Kong, plus près de nous, en 68-70. Elle a ceci de particulier, qu'elle s'est manifestée en deux vagues. C'est assez rare, hein, que deux vagues rapprochées au niveau des grandes pandémies. Et la grippe de Hong Kong, bon, elle part d'Asie, elle atteint les États-Unis en novembre, décembre. Toujours les mois, ce sont des mois assez, fatidique, entre guillemets, là, octobre, novembre, décembre, hein, pour la grippe, c'est des périodes de grippe saisonnière, évidemment. Donc, elle atteint les États-Unis en novembre, décembre 68. Elle fait plus de 50 000 victimes. Rapidement, près de 3 mois. En janvier 69, elle se répand en Europe. Mais il y a une pause à l'été. Et l'épidémie reprend en décembre 69, où là, on recense en France, notamment, 35 000
morts. Mais quand on dit, M. Goulet, c'est la grippe d'Hong Kong, là, si ça tue autant de gens, c'est que c'est pas une grippe ordinaire.
Non, c'est pas du tout une grippe ordinaire. D'ailleurs, on croyait, les autorités publiques de santé publique croyaient que les vaccins contre la grippe saisonnière seraient efficaces contre ce type de grippe-là. Alors, pas du tout. Ce sont ce sont de nouvelles souches. La grippe asiatique, c'est de type H2N2. Alors qu'avant, c'était de type H1N1, là, c'est un peu complexe, là, mais on connaissait les virus H1N1, mais on ne connaissait pas les virus H2N2. C'est un peu le cas aujourd'hui. Le coronavirus, c'est un nouveau virus qui apparaît. On connaît mal ses manifestations, son mode de propagation, sa virulence, etc. C'est un peu la même chose qui s'est produit antérieurement.
J'imagine que vous êtes impressionné par ce temps record de produire des vaccins qui semblent assez efficace, là, ce qu'on nous annonce, M. Goulet, c'est quand même extraordinaire là, de sortir un vaccin en moins d'un an.
Je dirais que c'est phénoménal parce que généralement, ça prend de 2 à 3 ans d'études pour qu'un vaccin soit accessible à la population. Évidemment, un effort massif de international, ça c'est assez formidable, un effort massif, à la fois sur le plan budgétaire, mais aussi au niveau des ressources scientifiques, en termes de personnel, en termes de moyens financiers, etc. Mm. Et finalement, je suis pas si surpris dans la mesure où la science évolue très vite à partir du moment où on lui donne les moyens d'avancer. Mais il faut quand même souligner qu'antérieurement, le secteur de la virologie, de la microbiologie, était plutôt, délaissé, si on veut, au niveau du financement.
Sous-financé
en quelque sorte, oui.
OK, 2-3 affaires avant qu'on se quitte, M. Goulet. Le SRAS de 2002-2003, ça a été une occasion ratée, parce qu'on a cessé, moi, ce qu'on m'a dit, des chercheurs m'ont dit, le SRAS est disparu, presque par enchantement, parce qu'il y a eu des confinements, il y en a eu à Toronto, puis il y en a eu en Chine, mais on n'a pas profité de l'occasion pour étudier et combattre le coronavirus qui est apparu il y a 17-18 ans.
Oui, malheureusement, on n'a pas appris les leçons du passé. Il faut dire que le SRAS était quand même un virus moins virulent et dont la propagation était moins rapide, moins importante. Il faut quand même souligner, à la décharge des pouvoirs publics actuels, que là, on a affaire à un virus qui est quand même particulier, très difficile à contrôler. Et aussi, on est dans une période socioculturelle, vous savez comme moi, qui est différente. Hein?
Ouais.
Les gens voyagent beaucoup plus aujourd'hui. Si on fait un rapport par rapport à la grippe de Hong Kong, ou encore la fameuse grippe que je vous parlais tantôt, la grippe asiatique, ben les gens voyageaient peu au Québec. Le tourisme mondial n'était pas en effervescence comme aujourd'hui, hein, évidemment.
La conclusion de tout ça, là, M. Goulet, les mouvements de masse, là, l'immigration, le tourisme du 21e siècle, là, c'est propice à la propagation de virus.
Absolument. À ce point qu'à peu près tous les épidémiologistes et les virologues avaient annoncé ce genre de pandémie. Moi-même, dans mes cours, j'avais annoncé aux étudiants, sans être prophète, qu'il y aurait probablement une nouvelle pandémie, eu égard aux facteurs épidémiologiques, vous dites que les virologues, les épidémiologistes analysent, déplacement de population, tourisme au monde, etc. Évidemment, les virus voyagent à grande vitesse aujourd'hui.
Et comme les avions, puis comme les touristes.
Écoutez, absolument, oui.
On va sûrement se reparler, vous et moi, parce que je veux finir votre livre, Brève histoire des épidémies au Québec, du choléra à la COVID-19. Je trouve ça fascinant, autant d'un point de vue médical que d'un point de vue social, culturel et politique. C'est aux éditions Septentrion pour ceux et celles qui s'y intéresseraient. Mais on va se reparler, M. Goulet, c'est sûr.
Spécialiste, avec grand plaisir. Oui.
Spécialiste en histoire de la médecine et prof associé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Merci à vous.
Merci encore, au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.